Secret d'info, Benoît Colombat, sur France Inter.
Alors nous recevons à présent Jean-Christophe Notin. Vous publiez deux ouvrages. D'abord une contre-enquête minutieuse sur l'ancien patron de l'espionnage français dans les années 70, Alexandre de Maranche, le maître du secret aux éditions Talendier. Et puis un livre d'entretien qui vient de sortir en édition de poche, Les guerriers de l'ombre. Alors ces guerriers de l'ombre, ce sont d'anciens agents clandestins de la DGSE, les services secrets extérieurs français, 12 hommes et une femme, des civils et des militaires qui parlent pour la première fois. Et ce qu'il vous raconte, Jean-Christophe Notin, c'est un quotidien très éloigné de l'image de James Bond.
Oui, c'est même, ça a été un des objectifs du livre et de leur objectif à eux, c'est-à-dire de montrer la vérité de ce travail qui est beaucoup plus, à la fois beaucoup plus pragmatique et à la fois beaucoup plus difficile que ce qu'on peut imaginer.
D'ailleurs, un de ces anciens agents vous dit que James Bond, en fait, c'est un très mauvais agent parce que il donne sa véritable identité, il ne prépare jamais ses missions et puis il casse tout le temps le matériel.
Oui, le but du clandestin est de se noyer dans la population. Donc à partir du moment où vous tuez, entre guillemets, où vous faites exploser, où vous donnez votre nom, évidemment, vous vous démarquez. Donc ce n'est pas un bon agent.
Alors ceux que vous avez rencontrés, il faut le préciser, ce ne sont pas des agents comme les autres. Ils appartiennent à un service ultra secret, dont vous révélez d'ailleurs le nom dans votre livre.
Alors, on va dire que la plupart appartiennent au service Mission, qui est un des services de la DGSE, côté du service Action. Mais pas tous, parce que la clandestinité est une, je dirais, une marque de fabrique, une manière de procéder au travail de renseignement. Donc certains appartiennent aussi au service Action, d'autres à ce qu'on appelle la direction du renseignement, mais vous pouvez avoir des clandestins à la direction technique également. C'est un mode opératoire, la clandestinité. C'est pas la marque intrinsèque d'un service en particulier.
Donc l'objectif de ce service, vous l'avez dit, c'est obtenir du renseignement de la manière la plus discrète possible.
Et en général dans les zones les plus périlleuses. La vocation première était d'intervenir dans les zones où il n'y avait pas d'ambassade française, où il n'y a pas la couverture diplomatique possible. Donc ce sont des gens qui agissent sous légende et sous couverture.
La légende, c'est une fausse identité en fait. Pour recueillir du renseignement sans en avoir l'air, on doit se construire une nouvelle vie. C'est ça qu'on appelle la légende, même s'il n'y a pas de bureau des légendes, comme dans la fameuse série télé.
Non, le bureau des légendes est une invention romanesque. Le bureau des légendes réel est dispatché entre différents services au sein de la DGSE. La légende, c'est vraiment s'inventer une nouvelle vie. Là, c'est là où ça devient compliqué. Ça peut être à la fois sous une fausse identité, mais à la fois sous sa véritable identité. Il y a des espions très très connus qui ont opéré sous leur véritable identité toute leur vie, dont le général Rondeau, par exemple.
Et en plus de cette légende, il faut aussi avoir une couverture, c'est-à-dire un métier et tout ce qui va autour.
Donc la légende, on s'invente une nouvelle identité, la couverture, on s'invente une nouvelle activité professionnelle. Donc évidemment, là c'est vraiment la marque, c'est évidemment des gens qui ne diront jamais « j'appartiens à la DGSE » ou même « j'appartiens à un quelconque service de l'État ».
Voilà, et là il ne s'agit pas de se prendre les pieds dans le tapis, il faut vraiment être dans sa nouvelle identité, dans sa nouvelle vie.
Et il faut, comme on dit, comme ils disent, tenir la couverture. Donc évidemment ne jamais révéler ce fil à la patte avec la DGSE.
Alors, pour intégrer cette élite du renseignement, il faut passer toute une série d'épreuves. On n'entre pas comme ça dans ce service.
Non, évidemment, comme ce sont des métiers très compliqués et très périlleux pour les services de l'État, il faut des gens donc qui ont un profil très particulier. Donc il y a des tests à la fois psychotechniques, on essaie de sentir un peu le caractère de la personne, et des tests sur le terrain de mise en pratique, donc vraiment des tests d'évaluation, de réaction à différentes situations proposées par les recruteurs.
Certains racontent par exemple le test du verre d'eau. C'est quoi?
Alors c'est le test le plus connu puisqu'il a été popularisé dans un film américain. C'est la personne est déposée par exemple au pied d'un immeuble. On lui dit tu as à peu près 15 minutes pour te signaler à la telle fenêtre du troisième étage avec un verre d'eau à la main. Et à la personne de se débrouiller pour le faire le plus rapidement possible et le mieux.
Et alors un autre grand classique, c'est aussi l'exercice de diversion.
Oui, chaque exercice a après une vocation à être appliqué sur le terrain. Donc là, le but, c'est par exemple d'entrer dans un restaurant, d'attirer l'attention de toute l'assistance pour qu'une autre équipe en parallèle puisse aller ou récupérer un renseignement ou récupérer un objet. Et donc là, pareil, on demande au candidat, tu vas dans tel restaurant, à toi de te débrouiller pour que dans 10 minutes, tu saisisses l'attention de tout le monde et qu'il n'ait Dieu plus que pour toi. Il faut absolument proposer quelque chose. Alors ça peut rater, c'est pas pour autant rédhibitoire. Le but, c'est une fois de plus de proposer quelque chose, de montrer qu'on peut s'adapter à n'importe quelle situation.
Alors, cette légende, parfois, elle pénètre au plus profond de l'aide de ses agents. Un de ses anciens agents vous dit que parfois, on rêve avec son identité fictive.
Oui, oui, ça a été même une des répliques les plus stupéfiantes qui nous est donnée, parce que ça montre l'impact de cette prise de personnalité. Il faut bien imaginer que ce sont des gens donc, qui prennent une nouvelle identité, une nouvelle couverture, mais qui la vivent en permanence, 24 heures sur 24, et des semaines durant. Parfois des mois, jamais des années, contrairement à ce que dit le Bureau des légendes, mais qu'ils peuvent reproduire d'année en année. Donc évidemment, ça a un impact forcément sur le psychique, d'où cette projection dans les rêves.
Alors l'objectif, c'est également de ramener, on l'a dit, du renseignement pour anticiper notamment les grands changements géopolitiques. Et c'est pas toujours évident. Dans votre livre sur l'ancien patron du renseignement, Alexandre de Maranche, qui est resté en poste de 1970 à 1981, vous dites que son anticommunisme l'a parfois un peu aveuglé et que, eh bien, par exemple, il n'a pas vu venir la révolution islamique en Iran.
Oui, alors oui, typiquement Maranche a fait ce qu'il ne fallait pas faire dans le travail des services, c'est-à-dire arriver avec des a priori et plaquer des idéaux politiques, idéologiques. Typiquement dans la crise iranienne, il n'imagine de révolution que manipulée par Moscou, alors que c'est une révolution vraiment fondamentaliste chiite. Et donc il ne voit pas du tout la montée du chiisme, la montée du fondamentalisme, et ça sera également vrai en Afghanistan, ça sera vrai en Afrique. Donc c'est plaquer une idéologie sur des situations, et donc ne pas les comprendre, et donc ne pas les anticiper.
Et dans le cas des ex-agents que vous avez rencontrés, l'Afghanistan, justement, occupe une place centrale, donc là, on est avant le 11 septembre 2000, les clandestins français ont des oreilles du côté des talibans comme du côté du commandant Massoud, par exemple.
Ah, ça a été, en ce qui me concerne en tout cas, une des plus belles pages de la clandestinité française, qui n'a pas eu d'équivalent à l'international, même la CIA n'a pas fait ça. Donc la DGSE a réussi à placer des pions à elle dans à peu près tous les camps. Il y avait dans les camps talibans, dans le camp de Massoud, également dans le camp royal qu'on oublie un petit peu. Mais donc c'est très très fort d'avoir des... Et il y a même eu sur un champ de bataille, vous avez eu donc Massoud qui a affronté des talibans et vous aviez les deux agents de la DGSE qui étaient sur chaque côté du front. Donc il aurait pu se voir à la jumelle.
Mais le commandant Massoud qui a été assassiné quelques jours avant le 11 septembre.
Le 9 septembre.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces agents évoquent les répercussions de leur travail sur leur vie privée. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être un clandestin.
Hein. C'est forcément beaucoup de pression sur vos épaules. Donc vous vous éclipsez en quelque sorte de votre foyer pendant X mois. Le foyer continue à vivre. Et donc l'agent, quand il revient chez lui, il revient avec la pression du travail. Il ne peut absolument rien dire de ce qu'il a vu et fait. Et vous avez le foyer, la femme, les enfants qui ont vécu leur vie en parallèle, avec leurs soucis en parallèle. Donc ils vont les répercuter sur l'agent qui revient en mission. Donc ça lui fait une double pression, sans moyen de décompression en quelque sorte. Ce qui fait que c'est un métier qu'ils ne peuvent pas faire très très longtemps en fait.
Il y a aussi la question de savoir si on peut avoir une relation intime avec quelqu'un pendant sa mission. Un ex-agent vous dit... Moi, ça ne me choque pas, du moment que c'est au service de la mission.
C'est ça.
Là aussi, il y a plusieurs points de vue. Hein.
C'est même un chef de service. La règle dans les services est de ne pas avoir de relations intimes, parce qu'il y a risque de compromission. Évidemment, on peut imaginer un service qui va mettre dans les pattes de l'agent, un homme ou une femme, pour essayer de l'approcher, et ça a pu se produire. Et donc, le chef de service en question, il dit non, moi, c'était un risque que je pouvais accepter, à condition qu'une fois de plus, ça puisse renforcer la couverture et la qualité de l'agent sur place.
Et c'est pas évident non plus d'en sortir, de sortir de ce service. L'un d'entre eux dit qu'on peut avoir un peu le syndrome de Superman qui du jour au lendemain doit aller acheter son journal et certains ont du mal à s'en remettre psychologiquement.
Ce qui est fascinant, c'est que c'est universel. J'ai lu très récemment le dernier ouvrage de John le Carré. Il décrit exactement la même chose de la part des agents du MI6.
Dire que des gens agents anglais.
Anglais, qui vivent ensemble, qui vivent dans une famille, avec un fort sentiment de supériorité, qui est lié à la connaissance de choses que le grand public n'a pas. Et donc, quand ils en sortent, ça crée un espèce de vide absolu. Ils reviennent au vrai monde, à la vraie réalité, et qui est forcément plus prosaïque. Et donc, ça peut avoir des phénomènes, là aussi, assez conséquents sur leur vie personnelle.
Il y a une phrase dans votre livre qui résume bien les choses sur cette collecte du renseignement parfois périlleuse. On est une flottille de chalutiers, on va chercher le poisson, on le dépose sur le quai et ensuite il y a des gens qui sont là pour traiter le poisson, dit un ex-agent. Est-ce qu'on a assez de poissons aujourd'hui pour bien anticiper les futures menaces?
Alors, comment dire, la tendance serait de dire oui, il faut des clandestins dans le monde entier. Maintenant, comme vous l'avez bien compris, c'est un métier très compliqué. C'est une prise de risque absolue, donc on peut pas non plus multiplier les risques. Ça demande beaucoup de techniques, de moyens, donc ça peut pas être multiplié à l'envi. Donc je dirais que c'est le service à peu près adapté à un service comme la DGSE et un pays surtout comme la France. Après, une fois de plus, comme c'est un petit service, ils sont obligés de faire des choix. Et là, évidemment, des choix, il peut également y avoir des erreurs.
C'est ce qui fait la spécificité de la France. Finalement, il y a assez peu de pays avec des services clandestins comme celui-ci.
Ah oui, c'est vraiment une des pattes françaises et qui remonte pour le coup à Maranche, puisque Maranche, quand il prend le SDEC, donc l'ancêtre de la DGSE en 70, la clandestinité est au point mort. Donc il relance vraiment le service clandestin et les clandestins actuels bénéficient de certaines choses qui ont été mises en place du temps de Maranche.
Avec même des techniques qui remontent à la Deuxième Guerre mondiale.
Ah,
c'est
oui,
ce qu'on apprend aussi dans votre livre.
Ah, c'est un savoir-faire, mais j'allais dire même universel. On le retrouve donc au MI6, on le retrouve à la CIA, on le retrouve au Mossad. Ce sont des ressorts qui sont vraiment universels, et donc ils s'apprennent d'officiers en officier traitant, avec des ressorts qu'on retrouve partout.
Et on demande aux agents d'éviter les réseaux sociaux. Finalement, on en revient aux bonnes vieilles méthodes et éviter les messageries électroniques et tout ce qui est numérique.
Il faut éviter de laisser son nom, son adresse, son numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. C'est donner un peu trop de facilité aux services adverses quand même.
Merci Jean-Christophe Notin. Je rappelle le titre de vos deux ouvrages, Le Maître du Secret, Alexandre de Maranche, Légende des services secrets français aux éditions Talendier et Les Guerriers de l'Ombre qui vient de ressortir en poche aux éditions Point.